le bébé.
C'est incroyable.
Il donne pas de coups, mais il bouge beaucoup, en fait.
Ouh, c'est d'accord.
Ok, maintenant, on va simplement dire bonjour au bébé. Laissez-le venir. Donnez-lui le temps. Allez, bien dans les mains de Gaspard.
Il s'installe.
Il s'installe, mais c'est bien. Il est très participatif à la consultation, là.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous sentez ?
Ah ben, il bouge, là. Tout son corps bouge entièrement. Hein. C'est même pas que des coups comme ceci, mais là, on doit sentir des pieds ou... Voilà. Donc, il est à peu près dans cette position ici, hein, puis ce qui bouge, c'est vraiment tout son corps comme ceci. Puis ça confirme aussi l'autre. Voilà, je suis capable,
Véronique Marty, vous nous racontez ce qui est en train de se passer là.
Alors, c'est une séance d'aptonomie. Il y a les deux parents, il y a une sage-femme, c'est Rosaria Vorley-Crichy. Il y a un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, qui en est au 9e mois de sa grossesse. Et puis, à ce moment-là de la consultation, eh bien, les parents ont leurs mains posées sur le ventre. Et le bébé répond, c'est-à-dire qu'il s'approche de l'endroit où sont les mains et vient se blottir, entre guillemets, contre ses mains à travers la peau.
On peut peut-être rappeler ou préciser ce que c'est que l'aptonomie ?
Difficile. Ouais. Difficile de donner une explication exacte. Disons que c'est une approche, c'est un art de vivre, diront certains, c'est une science même. Bon, on la connaît, si on la connaît, c'est surtout dans le cadre de la préparation à la naissance. On en a déjà parlé dans cette émission. Ça existe depuis une vingtaine d'années en Suisse. Mais ce qu'on sait moins peut-être, c'est que c'est une pratique beaucoup plus large et on retrouve cette approche dans tout un tas de domaines. Certains ostéopathes, psychiatres, infirmiers, médecins y ont recours en Suisse. Alors je vous propose aujourd'hui, Ambroise, de faire un petit tour d'horizon, justement.
D'accord, mais quelle est la spécificité de l'approche aptonomique ?
Si on observe l'étymologie du mot, on s'aperçoit qu'il vient du grec « apsis », qui signifie « le tact », le toucher. À ce sujet, je vous propose d'entendre Jean-Louis Revardel. Il est biologiste et aptopsychothérapeute, coordonnateur des formations au Centre international de recherche et de développement de l'aptonomie à Paris. Il vit dans la région de Bordeaux et il est l'auteur d'un livre intitulé « Comprendre l'aptonomie ».
En aptonomie, on évite d'utiliser le terme de toucher, on utilise le terme de contact, mais je dirais, peu importe les termes, il est intéressant de comprendre c'est que ce contact aptonomique est d'une nature très particulière de que l'on dit affectivo-confirmant. C'est-à-dire, c'est un contact de douceur, de tendresse, de respect, de mesure, de prudence, de délicatesse. Et c'est cette qualité de contact que l'on développe en particulier au cours des formations.
Alors Marc Pierre-Humbert, quant à lui, est médecin généraliste à La Chaux-de-Fonds, aptopsychothérapeute, président de l'Association suisse des professionnels de la santé formés à l'aptonomie, et il nous parle aussi de ce fameux contact.
Je pense que ça vous est arrivé qu'un ami proche ou une amie proche pose sa main sur votre épaule. Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Eh bien, c'est de l'aptonomie. L'important, c'est d'aller rencontrer l'autre. Le toucher est un des langages possibles. Et que ce langage est fort dans notre société. C'est-à-dire qu'il est tellement chargé de tabous dans notre société judéo-chrétienne qu'on ne peut pas toucher n'importe qui, n'importe où, si j'ose dire comme ça. Donc, de mettre la main sur la main de l'autre, c'est déjà un geste absolument incroyable, pour prendre un exemple tout simple, qu'on fait spontanément entre amis quand quelqu'un qui nous est proche est en détresse ou en difficulté. Donc, effectivement, c'est comme ça que ça commence. Ça ne peut que commencer comme ça. D'oser aller à la rencontre de l'autre par un toucher corps à corps, main sur main, main sur épaule, pour arriver vraiment à ce que l'autre puisse se vivre libre. On est souvent prisonnier de son corps, si je puis dire. Et l'intérêt de l'aptonomie, c'est d'animer ce corps. C'est que ce corps devienne vivant et conquérant, qui ait envie de vivre, envie de partir à la conquête du monde.
Marc Pierre-Humbert touche donc ses patients, mais contrairement au contexte de la périnatalité, c'est-à-dire soit de la préparation de la naissance, soit des suites de l'accouchement, le contact ne se fait pas sur le ventre.
Et on commence jamais par le ventre en psychothérapie, parce que ça c'est vraiment, c'est notre centre affectif à nous tous. Donc on commence toujours par le dos, au regard du ventre, si je puis dire comme ça. Parce que le dos, il est beaucoup mieux protégé. Il y a une bonne structure osseuse, il y a une bonne structure musculaire. C'est bien protégé au niveau du dos.
Alors Marc Pierre-Humbert est un des rares aptopsychothérapeutes de Suisse romande. Il a pratiqué tout d'abord la médecine générale normale, entre guillemets, puis un jour il a eu besoin d'une autre approche et puis il a découvert l'aptonomie. Les patients qui viennent le voir aujourd'hui le font pour des raisons assez différentes les unes des autres.
Alors on peut venir me voir avec un deuil. Dans un processus de deuil, on peut venir voir une dépression, une anorexie, par exemple, certains troubles phobiques, tout ce qui est traumatique. Quelqu'un qui a vécu des abus de pouvoir pendant des années, il a tellement été cassé dans son autonomie. Comment il va se reconstruire? Il a besoin d'un tout petit peu d'aide. Et là, c'est pour moi très clairement l'image du guide de montagne qui finalement aide à passer le mauvais guet. Parfois, il faut qu'il porte un peu. Parfois, il faut que simplement il tende un doigt pour dire « mais passons ensemble par-dessus ce vide de dizaines de mètres ». C'est juste ça. Arriver à se faire confiance mutuellement et pouvoir avancer ensemble dans la rencontre et dans la confirmation affective.
Ah voilà, la confirmation affective, on a déjà entendu ce terme au préalable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, on va le voir avec Marc Pierre-Humbert, mais avant cela, il faut savoir que c'est le postulat de l'aptonomie. La confirmation affective et le sentiment de sécurité sont indispensables au développement des potentialités qui sont en germe dans tout être humain.
Ça commence déjà par « tu m'intéresses, j'ai envie de te rencontrer ». Alors, ça peut être le bébé dans le ventre de la maman, mais ça peut être deux êtres humains adultes qui sont autour d'une table et qui, tout d'un coup, manifestent des signes très clairs qu'ils ont envie de se rencontrer. Et à partir du moment où la rencontre commence, on est déjà dans la confirmation affective. On dit à l'autre « tu es important pour moi ». Ça ne se dit pas forcément avec des mots. Ça se dit avec les yeux, ça se dit avec le sourire, ça se dit avec la mimique. Ça peut se dire avec la main, effectivement. Mais on n'arrête pas de faire ça. Je veux dire, c'est notre occupation principale dans notre société humaine. S'il n'y a pas ça dans notre société humaine, nous ne sommes pas une société humaine. J'ai même envie de dire que l'être humain seul est un futur être humain mort. Nous ne pouvons vivre qu'en faisant des rencontres.
Alors je vous le montre, après Gaspard pourra le faire également. Je vais lui soutenir sa base ici. Mettre ma main juste sous son épaule, comme ceci, et je vais faire les choses avec lui. Je vais le porter, je vais aller à sa rencontre. Je ne vais pas simplement vous le détacher comme ceci, gentiment. Puis vous, Mariette, vous le donnerez à son papa. Puis là, d'accord. Alors, et là, c'est ma main qui va venir et je vais le porter comme ceci. Ça va plus loin que le physique. C'est du ressenti. Alors c'est clair, il y a ce contact physique, mais c'est un vrai ressenti parce que je peux contacter quelqu'un, le prendre et le manipuler. Là, on est vraiment dans un contact qui permet à l'autre de prendre place, de prendre position, de grandir dans ce contact-là. Et ce qui m'importe pour moi dans cette approche, c'est le fait qu'on confirme l'autre dans ce qu'il est capable de faire et qu'on ne va pas faire les choses à sa place. Mais toute cette approche-là permet à l'enfant de trouver en lui-même des ressources pour pouvoir affronter la vie, quoi.
Et trouver des ressources pour affronter la vie, ça peut donc commencer très tôt, visiblement, selon là aussi un postulat de départ dans l'aptonomie. Et puis ça peut se perpétuer tout au long de la vie.
Très tôt, comme là, à l'instant, avec Rosaria Vorley-Crichy, qui montrait donc aux parents comment porter leur nouveau-né de façon aptonomique, parce que ça ne s'arrête pas à la préparation à la naissance. Et cette approche peut donc se perpétuer durant l'âge adulte. Voilà pourquoi on trouve de l'aptonomie dans tout un tas de domaines. À propos justement des champs d'application, on retrouve Jean-Louis Revardel.
Les champs d'application, c'est la personne humaine, de la conception à la fin de vie. C'est l'accompagnement de tout le développement ontogénétique de la personne, c'est l'accompagnement au niveau de la puériculture, au niveau pédagogique de l'adolescent, au niveau des difficultés physiques et psychiques de tout âge de la vie, au niveau aussi de la fin de vie. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un accompagnement dans le vécu affectif de l'ensemble des grands événements de la vie.
Alors, un accompagnement, moi je veux bien, mais qui accompagne justement?
Alors, ce sont des gens formés à l'aptonomie, vous allez me dire que c'est évident, mais pour la formation, il en existe une, disons, officielle, entre guillemets, on va y revenir justement, c'est celle qui est dispensée dans le centre du fondateur, Franz Wellmann, à Paris, le CIRDH, et cette formation s'adresse à des professionnels de la santé.
En fait, il faut bien comprendre que l'aptonomie n'est pas un métier en soi, mais c'est une manière d'exercer sa profession de thérapeute dans son champ spécifique.
Et chaque praticien peut adapter l'aptonomie à son domaine particulier, comme Jacques Espinas, par exemple. Il est éducateur de jeunes enfants à Genève. Il pratique notamment l'aptopédagogie en piscine. C'est quelque chose qu'il a élaboré lui-même.
c'est l'intérêt de l'autonomie, c'est qu'elle nous laisse en tant que thérapeute créateur complet. Elle nous définit, si vous voulez, une approche, des principes. Oui, alors c'est pour ça que en autonomie, on ne parle pas de méthode, on parle d'approche.
Alors justement, une approche qui est née où, qui est née comment ?
Elle est née aux Pays-Bas, il y a un peu plus de 60 ans.
L'autonomie est née pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Franz Wellman qui est le fondateur. Il était à cette époque-là tout jeune médecin et en fait confronté aux atrocités de la guerre, aux victimes, aux blessés. Et là, il a été interpellé vraiment par les interactions humaines, où il a découvert à la fois soit une grande noblesse d'âme, comme il dit, au service de la survie de l'autre, ou au contraire des conduites vraiment égoïstes, voire abjectes, qui mettaient en péril la vie de l'autre ou l'abandon de l'autre. Et ce que dit Franz Wellman, c'est que ce sont vraiment les attitudes d'humanité pleines de tendresse, d'amour, qui l'ont le plus déterminé, si vous voulez, qui l'ont le plus surpris. Et c'est là où il a décidé de mettre sa vie au service de l'étude de l'affectivité de la vie émotionnelle des humains.
Oui, étude de l'affectivité, une expression qu'on a beaucoup entendue jusqu'à maintenant dans ce dossier, c'est véritablement la notion centrale dans cette pratique.
Oui, on peut lire d'ailleurs dans le livre de Jean-Louis Revardel, Comprendre l'autonomie, c'est une attitude qui repose, l'autonomie est une attitude qui repose sur une compréhension de l'affectivité. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que l'affectivité ?
Alors l'affectivité, c'est l'ensemble des facultés qui gèrent les sentiments, les émotions, l'engagement dans la vie. On peut dire aussi le goût pour la vie, le désir et le plaisir de vivre, ce qui est à base d'un élan dans la vie. Voilà ce que l'on appelle l'affectivité. C'est vraiment le berceau qui sous-tend l'ensemble des actions.
Et alors, si vous deviez vous donner une définition de l'autonomie, ce serait laquelle ?
Alors, la définition de l'autonomie, on pourrait dire que c'est à la fois un art de vivre et une science.
Ah, une science. Voilà, je me suis retenu jusqu'à maintenant, Véronique Marty, pour
c'est
être tout à fait sincère. Non, parce que là, on parle beaucoup d'affectif, enfin, bon, c'est difficilement palpable tout ça. Alors justement, j'aimerais savoir ce que rationnellement on en pense chez les scientifiques.
Difficile d'être rationnel, Ambroise, quand on parle d'affectivité, de sentiments, de contact humain.
Je sais bien.
Nous avons tout de même contacté Didier Grandjean, qui est psychologue chargé de cours à l'Université de Genève, au pôle de recherche nationale en sciences affectives. Il nous a signalé qu'il n'y a eu aucun article scientifique d'importance sur le sujet de l'autonomie et que la technique lui paraît tout de même tout à fait intéressante dans son fonctionnement, notamment quant au développement sensoriel précoce du fœtus. Il précise tout de même que cette approche n'a pas fait l'objet d'une étude scientifique, en tout cas pas définie comme telle, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas l'être un jour.
Oui.
À ce stade, le terme de science de l'affectivité utilisé par les fondateur de l'autonomie, lui semble largement abusive. Sur cette objection, on retrouve Jean-Louis Revardel.
Il faut voir que, en fait, sous ce terme de science, nous désignons l'approche des phénomènes affectifs. L'approche et l'étude des phénomènes affectifs. C'est-à-dire que chez l'être humain, en relation avec l'autre, on peut constater un certain nombre de phénomènes qui sont nommables, qui sont descriptibles, qui sont qualifiables et qui peuvent être étudiés. C'est-à-dire qu'ils sont répétables chez un même individu, c'est quelque chose qui est tangible, et c'est aussi, on dit, reproductible d'un individu à l'autre. Ce qui veut dire que les qualités affectives que l'on étudie sont bien sûr des invariants de l'espèce humaine. Le monde de l'affectivité se comprend plus qu'il ne s'explique. Donc si vous voulez, les écrits sur l'autonomie sont effectivement peu nombreux, et ils sont d'ordre phénoménologique. C'est-à-dire qu'on peut témoigner des phénomènes, mais il est encore difficile au stade où nous en sommes de donner quelque chose d'explicatif sur le plan de la neurobiologie.
Mmh. Si on résume, quels sont les domaines dans lesquels on trouve des praticiens en autonomie en Suisse romande, Véronique Marty ?
Donc, il y a la périnatalité, ouais, c'est le
classique.
Domaine le plus connu.
Ouais.
La puériculture, et ça concerne les enfants jusqu'à 2 ans. La pédagogie. Les enfants, les adolescents. On retrouve ensuite de l'aptocinésie, et ça concerne les personnes handicapées ou malades. Et puis la psychothérapie, on l'a vu notamment avec Marc Pierre-Imbert. La liste se trouve sur le site apto.ch de l'Association suisse des professionnels de la santé formés en aptonomie.
Donc ce sont les seuls qui pratiquent cette approche?
Eh bien non, ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a cette école donc dite officielle, le CIRDH à Paris, un centre on va dire historique, parce que c'est le premier à avoir été fondé par le créateur de l'aptonomie, Franz Wellmann. Mais il y a eu un jour une scission et une deuxième école a été fondée, l'Institut scientifique d'aptonomie, par le fils même de Wellmann, Franz Wellmann Junior, et l'on trouve en Suisse romande des praticiens qui sont formés dans cette école-là.
La formation est la même ?
Le fils a été formé par son père, donc il suit les mêmes principes. Ce qui change surtout, selon Sandrine Racine, qui est sage-femme et formée dans cette école, disons, dissidente, entre guillemets, c'est qu'elle va, cette école, avoir une ouverture à d'autres postulants à la formation. Il n'est pas nécessaire d'être formé dans le domaine de la santé pour pouvoir bénéficier des cours. Les assistants sociaux ou les enseignants, par exemple, y sont admis. C'est une des différences qu'il y a, mais il y en a beaucoup d'autres également. On sent qu'il y a vraiment deux courants, deux écoles et pas forcément une bonne entente.
Alors, si je vous suis bien, ça veut dire que le mot aptonomie en lui-même, il n'est pas protégé.
Si, mais ce n'est que lorsque cette approche a commencé à avoir du succès que des gens se sont mis à pratiquer l'aptonomie sans avoir été formés à la maison mère, que Franz Wellmann a protégé le terme, mais il était trop tard pour protéger aptonomie. Il a donc protégé aptonomie authentique. Ouais. Voilà, ça c'est le terme qui est protégé. Et puis sur le site du CIRDH, on peut lire une mise en garde contre les annonces de stages et de formation en aptonomie. Ils revendiquent l'exclusivité de la formation. Alors, on peut se demander pourquoi ce protectionnisme. J'ai posé la question à Jean-Louis Revardel, dont je rappelle qu'il est coordonnateur des formations au Centre international de recherche et développement de l'aptonomie.
Je crois que c'est en fait par responsabilité éthique que s'est développée cette attitude de protection de l'aptonomie. Parce qu'il y a une grande proximité dans l'intimité des personnes en aptonomie, que ce soit avec les jeunes couples et leurs bébés, que ce soit dans les séances de psychothérapie ou que ce soit dans les soins médicaux et paramédicaux. C'est un contact d'une qualité qui touche l'intime de l'être.
Donc, et on pourrait faire des dégâts.
Je crois. S'il y a un manque d'éthique, on pourrait faire des dégâts.
Bon, Véronique Marty, alors à nouveau, je vais être un peu critique. Vous connaissez mon côté un peu carré, trop carré, diront certains. Mais c'est vrai que là, puisqu'on est en train de parler d'affectif, les choses se comprennent, ne s'expliquent pas. C'est ce qu'on entendait dans la bouche de l'un de vos interlocuteurs tout à l'heure. Moi, j'aimerais quand même savoir s'il y a des avis critiques par rapport à ces méthodes, des personnes qui vont ne serait-ce que douter des vertus de l'aptonomie.
Il y en a peu, nous en avons cherché, mais il y en a peu. Ce qu'on peut lire par exemple sur Internet, sur les forums de discussion, sont des gens qui sont déçus, mais par des praticiens particuliers. Il y a aussi des gens un peu agacés par la méthode, qui se disent pourquoi payer une séance alors qu'on peut faire tout simplement appel au bon sens pour avoir ce contact-là. Voilà, mais d'une voix un peu plus officielle, disons qu'il y a en France un gynécologue accoucheur, il s'appelle Bernard Fonty. Il s'est élevé contre l'aptonomie appliquée à la préparation à la naissance. Nous l'avons contacté pour lui demander ce qu'il en pensait. Il nous a dit que sa conviction était que l'on faisait des pères, des substituts des mères par ce type d'approche, que l'on féminisait le corps masculin et qu'il y avait à terme une confusion des rôles. Pour lui, le père ne doit pas être là pour séparer la mère de l'enfant. La mère fait du bien à l'enfant et le père fait du bien à la mère.
Oui, donc, mais bon, il est un peu opposé à l'aptonomie, mais peut-être pas pour les raisons médicales qu'on aurait pu supposer. C'est pour d'autres raisons plus psychologiques, de couple, de relations, de place de l'homme dans la société. Enfin...
On est dans un rapport très fin entre la médecine et la psychologie, on prend.
Est-ce qu'on peut parler d'un effet de mode qui expliquerait l'intérêt croissant pour l'aptonomie? Je crois chaque personne enceinte que j'ai pu croiser ces derniers temps me parle au moins d'un intérêt pour l'aptonomie. Alors...
Sans doute qu'on peut parler d'un effet de mode ou un besoin révélateur de notre société. J'ai posé cette question aux premiers concernés, les parents qui étaient venus, on l'a entendu en début de ce dossier, consulter Rosaria Vorlet-Crichy, c'est Marianne et Gaspard. Alors, est-ce que l'aptonomie, pour vous, est un effet de mode?
Pourquoi pas, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à pratiquer l'aptonomie, et si ça peut, par effet de mode, amener d'autres personnes à le découvrir, moi, je trouve que tant mieux.
Je crois qu'il faut le vouloir. Il faut le ressentir et il faut vraiment en avoir envie, sinon je ne pense pas que c'est un quelconque intérêt.
Des gens qui ont besoin de quelque chose de plus intellectuel, plus médical, moi, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. C'est très important de trouver quelque chose qui réponde à la personne qui la pratique.
Juste avant de terminer, peut-être deux, trois références. Vous avez cité un ouvrage tout à l'heure.
Alors, Comprendre l'autonomie, édité aux Presses universitaires de France, c'est signé de Jean-Louis Ravardel. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, Ambroise, cette phrase que je vous ai mise en fin de
dossier. Ah non, je n'avais pas vu. Non.
C'est exprès pour vous que je l'ai mise. Elle est signée de Catherine Dolto-Tolich, qui a donc une formation en autonomie et qui dit « On ne saurait vraiment rendre compte d'une expérience de contact tactile avec un outil comme le langage, on ne peut saisir véritablement l'autonomie tant que l'on ne l'a pas éprouvée. »
Bon, ben ça fait 1-0 pour Madame Catherine Dolto-Tolich. Merci beaucoup Véronique Marty pour toutes ces explications. C'est un dossier bien sûr que vous pouvez réentendre en tout temps sur notre site internet onenparle.rsr.ch.